Notre navigation jusqu'à Cologne fut assez longue, parce que naviguant toujours terre à terre du côté de l'Empire, où j'ai dit que l'armée de cette nation était cantonnée, on nous arrêtait à chaque poste ou corps de garde pour y présenter et faire viser notre passeport. Nous fûmes quelquefois escarmouchés par les Français qui étaient à l'autre bord, mais Dieu merci, sans nous faire aucun autre mal que la peur. 8 jours après notre départ de Francfort, nous arrivâmes à Cologne en bonne santé. Nous y vendîmes notre bateau, et le lendemain, nous partîmes de cette ville par la barque ordinaire pour Dordrecht, après avoir visité quelques messieurs protestants, à qui Monsieur Sarrazin nous avait recommandé et qui nous firent un favorable accueil. Nous arrivâmes à Dordrecht, et de là, sans y faire aucun séjour, nous partîmes pour Rotterdam, où étant arrivés, nous y fûmes accueillis avec toute l'amitié possible du nombreux troupeaux, tant français que hollandais, de cette ville. Nous y restâmes 2 jours, toujours défrayés partout. Enfin, nous arrivâmes à Amsterdam, le but de notre voyage. De vous dire la réception fraternelle qu'on nous fit dans cette grande ville si zélée pour les confesseurs de la vérité de notre sainte religion, je n'aurais jamais fini. Aussi me serait-il impossible de la pouvoir dépeindre. Nous fûmes encore à la vénérable compagnie du consistoire de l'église wallonne pour leur témoigner notre gratitude de la constante bonté qui nous avait témoignée pendant un si grand nombre d'années en nous secourant si efficacement dans nos grandes tribulations. Cette pieuse compagnie eut la bonté de répondre à nos remerciements par des assurances de la continuation de leur zèle. Ensuite, elle nomma 2 d'entre ses membres pour aller nous présenter au consistoire hollandais qui s'assembla exprès pour nous recevoir. Il y eut là des démonstrations de zèle et de charité qu'il est plus facile de comprendre que d'exprimer. Ces messieurs nous embrassèrent tous, les yeux baignés de larmes de joie, et nous firent une exhortation pathétique de donner les marques de notre sainte foi en édifiant l'Église par une vie sans reproche, qui répondit à la constante profession de confesseur de la vérité que Dieu nous avait fait la grâce de soutenir sur les galères. Ensuite, cette vénérable compagnie résolut une libérale bénéficence pour aider à nous procurer le nécessaire et remercia les députés de l'église wallonne de la bonté qu'ils avaient eue de nous présenter à leur compagnie, leur témoignant leur en savoir gré. Nous restâmes ensuite, pour ainsi dire, ambulants pendant 3 ou 4 semaines, n'ayant pu songer à nous fixer à cause des caresses qu'à chacun nous faisait. C'était à qui nous aurait, nommément mes chers compatriotes de Bergerac, chacun de nous avait les siens. La connaissance des familles, les diverses persécutions, la parenté et surtout l'amitié qui animait nos conversations, nous attachaient à eux d'une manière si intime que nous ne pouvions nous en séparer. Je commençais pourtant à songer tout de bon à m'occuper à quelque chose d'utile, lorsque messieurs du consistoire de l'église wallonne me prièrent d'être l'un des députés qu'on avait résolu d'envoyer en Angleterre pour 2 fins. L'une pour remercier Sa Majesté britannique de la délivrance qu'elle nous avait obtenue, et l'autre pour donner quelque poids aux sollicitations qu'on faisait à Sa Majesté pour faire délivrer ceux qui restaient encore sur les galères au nombre d'environ 200. On juge bien que je ne pouvais qu'acquiescer. Je partis donc pour Londres avec 2 de nos frères. Et dans peu, nous nous y trouvâmes 12 députés, tous comme on nous appelait galériens. Messieurs les marquis de Miremont et de Rochegude nous présentèrent à la reine qui nous admit à l'honneur de lui baiser la main. Le marquis de Miremont fit à Sa Majesté une courte mais très pathétique harangue sur le zèle de Sa Majesté et sur sa puissance d'avoir obtenu la délivrance des confesseurs de la vérité d'entre les mains de ceux qui avaient juré de prolonger leur souffrance autant que leur vie, etc. Sa Majesté nous assura de sa royale bouche qu'elle était bien aise de notre délivrance et qu'elle espérait de faire bientôt délivrer ceux qui étaient restés sur les galères. Après quoi, nous nous retirâmes. Monsieur le marquis de Rochegude, qui possédait à fond la politique des cours, jugea à propos de nous présenter au duc d'Aumont, qui était pour lors ambassadeur du roi de France à la cour de Londres. Et voulant faire naître l'envie à cet ambassadeur lui-même de nous voir, il lui alla faire sa cour et lui parla de la députation que les galériens protestants, que Sa Majesté très chrétienne avait fait délivrer, avaient envoyée à Londres pour remercier la reine de sa favorable intercession auprès du roi de France, ajoutant que ces députés au nombre de 12 seraient déjà venus rendre leur respect à son excellence s'ils en avaient osé prendre la liberté. Le marquis avait jugé que cette démarche pourrait être utile pour la liberté de ceux qui étaient restés sur les galères. L'ambassadeur, paraissant très curieux de nous voir, il fut arrêté que le lendemain, le marquis nous introduirait à l'audience de son excellence, ce qui fut fait. Son excellence nous reçut fort gracieusement, nous touchant à tous dans la main et nous félicitant de notre délivrance. Il nous demanda combien de temps nous avions souffert le supplice des galères et à quelle occasion nous y avions été condamnés. Chacun de nous répondit à cette demande séparément, car le temps et l'occasion étaient différents. Nous avions préalablement fait notre compliment à son excellence, remerciant de tout notre cœur Sa Majesté très chrétienne en la personne de son ambassadeur, de la grâce qu'elle nous avait faite, et la suppliant de faire délivrer ceux qui restaient encore captifs sur les galères. Nous adressâmes ensuite nos supplications à son Excellence, la priant instamment de faire intervenir ses bons offices à la cour de France pour faire délivrer ces pauvres gens, qui n'étaient pas plus criminels que nous, et qui avaient obtenu la même faveur de la royale intercession auprès de Sa Majesté britannique, auprès de Sa Majesté très chrétienne. Que le roi avait consenti que tous les galériens, généralement qu'il était pour cause de religion, fussent délivrés. Que cependant, on n'en avait délivré que 136 et retenu environ 200. Son Excellence parut frappée de cette distinction et nous dit qu'il n'y comprenait autre chose, sinon que ceux qui étaient restés devaient avoir commis quelque autre crime. Nous protestâmes le contraire et chacun de nous en alléguant les preuves les plus plausibles. Je pris la liberté de supplier Monsieur l'ambassadeur de vouloir bien me faire la grâce de m'accorder un moment d'attention sur l'exemple que j'allais lui citer, qui prouverait clair comme le jour qu'il n'y avait pas eu de distinction de crime qui retinsse nos frères sur les galères. J'étais le plus jeune de la troupe et le moins grave, et je m'étais fait un effort sur moi-même de m'enhardir à plaider cette cause devant Son Excellence. Mais je la priai de me le permettre avec un tel air d'assurance de la convaincre qu'elle s'attacha avec bonté et patience à m'écouter. Je lui récitai succinctement la cause qui m'avait porté à sortir du royaume, qu'étant liée d'amitié avec un jeune homme de Bergerac, nommé Daniel Legras, nous étions partis ensemble et avions été tous deux arrêtés à Marienbourg, et là, condamnés tous deux par la même sentence aux galères perpétuelles. Que le Parlement de Tournai avait confirmé cette sentence en nous déclarant tous deux convaincus du même cas. Qu'en un mot, nous étions tous deux sur la même feuille qui formait notre sentence, sans aucune distinction, soit de crime particulier ou autre contravention aux ordonnances. Que cependant j'étais délivré et que mon compagnon était resté, ce qui prouvait bien clairement que la Cour de France n'avait pas fait observer de distinction de crime en l'en délivrant seulement 136. Monsieur l'ambassadeur nous fit la justice de paraître convaincu par cet exemple et me pria de le lui donner par écrit, ce qui se fit. Et il nous dit qu'il fallait donc que le ministre de la Marine ou ses secrétaires eussent fait cette bévue. Son Excellence s'adressa ensuite au marquis de Rochegude, le remercia de lui avoir procuré notre vue, ajoutant que les éclaircissements que nous lui avions donnés le satisfaisaient, et qu'il en allait écrire en cour de France pour faire sentir que cet abus, s'il n'était pas remédié, paraîtrait et serait en effet une injustice. « Épreuve, dit-il encore à M. de Rochegude que je parle sincèrement, donnez-vous la peine de venir demain, qui est jour de poste pour France, pour prendre vous-même ma lettre que je lirai et cachèterai en votre présence, et que vous ferez mettre ensuite à la poste. Vous y verrez, continua-t-il, de quelle manière je prends cette affaire à cœur pour ces pauvres gens. » Et se tournant vers son secrétaire d'ambassade, nommé l'abbé Nadal, « Voilà, dit-il, monsieur l'abbé, d'honnêtes gens, qui font voir au milieu de leurs préjugés de religion leur candeur et leur bonne foi. » Cet abbé ne répondit que par un inclinement de tête et fit bien voir par la suite que l'approbation et la bienveillance dont son maître nous honorait n'étaient pas de son goût. Car le lendemain, le marquis de Rochegude étant allé chez l'ambassadeur pour prendre sa lettre, suivant qu'il était convenu, Son Excellence le reçut bien de la manière la plus gracieuse, et lui dit qu'il lui avait tenu parole et que sa lettre était faite. Mais ayant appelé l'abbé Nadal et lui demandant où était cette lettre, « Quelle lettre, monseigneur ?» répondit l'abbé. « Cette lettre, répartit l'ambassadeur, en propre terme au sujet des confesseurs sur les galères. » Ce titre honorable de confesseur que Son Excellence nous donnait fit frémir l'abbé. Et comme son maître insistait encore à lui demander où était cette lettre, il répondit froidement qu'elle était sur le bureau de Son Excellence. « Donnez-la donc, lui dit l'ambassadeur. » Là-dessus, l'abbé lui dit qu'il avait un mot à lui dire en particulier. Et lui ayant parlé à l'oreille, l'ambassadeur dit au marquis que son secrétaire le faisait ressouvenir qu'il avait écrit quelques particularités dans sa lettre qui ne regardaient pas l'affaire des galériens, et qu'ainsi, il le priait de le dispenser de la lui remettre, mais qu'il pouvait compter qu'elle serait envoyée le même jour. Monsieur de Rochegude vit bien à quoi il s'en fallait tenir, et que l'abbé Nadal avait détourné son maître d'envoyer cette lettre. Par la suite, l'ambassadeur assura bien Monsieur de Rochegude que la lettre avait été envoyée, mais ni lui ni nous n'en crûmes rien. Et nos frères ne furent délivrés qu'un an après par une nouvelle sollicitation de la reine d'Angleterre. J'ai cru que je devais insérer cette particularité dans ses mémoires pour faire voir que les honnêtes gens nous plaignaient et étaient portés à nous rendre service et qu'il n'y avait que les ecclésiastiques qui nous haïssaient et nous contrecarraient partout. Cet abbé Nadal était ecclésiastique. Il était aumônier et en même temps secrétaire d'ambassade. Il donna pendant la résidence à Londres avec le duc d'Aumont plusieurs marques de son animosité contre les protestants. L'ambassadeur était bon et modéré, et que ce fut, comme on dit, au bénit de cour ou politique, il a toujours paru très humain envers les protestants. Mais l'abbé Nadal le gâtait. Cet abbé avait tellement gagné les officiers de la maison de l'ambassadeur, et les avait si fort animés contre les Français réfugiés, qu'il ne se passait presque pas de jour que ces honnêtes gens n'en reçussent des affronts.